Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Vial, il nous parle de mentalisme pour la deuxième fois à l'émission. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la sophrologie. Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique « L'homme est-il le mammifère ruminant ?» On commence en chanson avec Roy Davis, sa chanson s'intitule « Je suis ton animal ». Bienvenue à Folie douce.
Tu m'as dit que tu ne me voulais plus dans ta vie. Je suis parti vivre dans la forêt loin de l'envie. J'ai pensé à m'échapper pour ne pas te faire mal. J'ai vécu un changement animal. Transforme en sombre inconnu, les yeux tournés vers le ciel, espérant une issue. Je resterai à jamais auprès de toi. Je suis ton animal. Je marche en laisse dans le noir, entre deux vies et la mort. Et moi où je m'enfuirai dans la nuit. Sans toi, je meurs un peu plus à chaque heure. De toujours tout détruire. Je marche, 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 loin de nous, loin de tout. Ici, je ne sens plus ton odeur, je deviens fou. J'ai demandé à la lune pourquoi ne pas en finir. Je hurle mon désespoir et l'envie de te voir. À l'aube, on va se retrouver, je te prie de me croire. Attends-moi pour qu'on puisse aimer encore plus fort. Je resterai à jamais auprès de toi. Je suis ton sous la pluie.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce.
J'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Stéphane Vial. Bonjour Stéphane et bienvenue encore une fois à l'émission.
Bonjour, merci.
Bonjour, vous êtes fondateur de Mentalis et professeur titulaire à l'École de design à l'Université du Québec à Montréal et chercheur également en santé mentale. La dernière fois qu'on s'est parlé, la première fois que vous êtes venu à l'émission, on a parlé un peu du cheminement. Qu'est-ce qui a fait en sorte un peu pourquoi vous avez créé Mentalis et ça se tient parce qu'il y avait à la fois des études du travail en design, des études en design, aussi en psychologie. Donc, mais on a un peu abordé Mentalis, mais pas tant. Donc, on aimerait ça y aller un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour débuter?
Oui. Alors, Mentalis, c'est une plateforme numérique. Le mot plateforme ici, il faut le prendre au sens strict, c'est-à-dire c'est la combinaison entre une application mobile et un portail web, un site web si on veut, qui sont synchronisés entre eux et qui fonctionnent en combinaison. L'application mobile, elle est destinée à la population, gratuite. Il n'y a pas de suivi d'activité, de tracking, il n'y a pas de revenus publicitaires, il n'y a pas de monétisation de données, l'utilisateur n'est pas le produit. Le modèle, c'est le tiers payeur, c'est qu'il y a un organisme, un établissement de santé, une institution, une université, un employeur privé qui va financer le service pour qu'il soit accessible gratuitement à la population. Donc, par exemple, mettons qu'un établissement de santé décide de doter son territoire du service mentaliste, à ce moment-là, l'ensemble de la population de son territoire va y avoir accès, par exemple.
Pour télécharger l'application, c'est ça. Dans le fond, comment ça l'utilise?
Ouais, l'application est déjà téléchargeable. Okay. Simplement, quand on la télécharge, il faut mettre un code d'accès. Okay. Puis c'est notre fournisseur mentaliste qui nous fournit ce code d'accès.
Mais c'est déjà en fonction et depuis déjà un certain temps, j'imagine.
Ça fait quelques temps, pas tant, parce que ça nous a pris plusieurs années à le concevoir. On en avait parlé la dernière fois. On a travaillé beaucoup en co-design avec des personnes ayant un vécu en santé mentale, des professionnels de santé, des designers.
Ça a été fondé en 2020, c'est quand même
pas
assez
récent. On a démarré en 2020
récent,
le projet, puis on a abouti à une première version de la plateforme en 2025.
Ouais.
Puis là, il y a déjà une première version de l'application mobile sur Android qui est disponible au téléchargement gratuitement, puis il y en a une iOS qui s'en vient rapidement. Puis quand on télécharge l'application, donc on doit renseigner un code d'accès qui nous permet de déverrouiller l'application puis d'avoir accès à ce qu'elle propose. Puis ce qu'elle propose, c'est de l'ordre de deux choses. Il y a un ensemble d'outils que je vais appeler rapidement d'auto-soins, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire pour soi-même tout seul, de manière autoportante, sans l'intervention d'un professionnel de la santé ou d'un intervenant. Par exemple, on peut compléter quelques questionnaires d'auto-évaluation pour mesurer son niveau d'anxiété ou de symptômes dépressifs. Ce n'est pas des diagnostics, c'est des outils d'estimation de symptômes qui aident à la prise de conscience. On a des vidéos, on en a plusieurs centaines, triées une par une par nos équipes de qualité, produites par des organismes qui expliquent des enjeux de santé mentale. On est plus dans l'éducation un petit peu, la sensibilisation. On a des outils comme un plan de crise qui nous permet de renseigner un petit peu, quels sont mes outils pour faire face à des moments difficiles, comment je m'y prépare, mes déclencheurs, mes signaux d'alerte ou autre chose comme ça, mes personnes proches de ressources et tout. Dans l'ensemble d'outils comme ça, là, je ne peux peut-être pas tous les résumer, mais c'est ce genre de choses. Puis il y a un deuxième volet qui est un système de messagerie sécurisée avec des intervenants humains et qui, eux, proviennent soit d'un établissement de santé, par exemple un établissement public de santé.
Genre l'établissement qui le rendrait disponible à ses patients pour avoir son personnel, c'est ça?
Voilà, par exemple, typiquement un établissement public de santé, mettons un CIS ou un SUS au Québec, par exemple, qui voudrait le rendre disponible, à ce moment-là, ça lui permet de communiquer de manière plus moderne et fluide avec les usagers, parce qu'actuellement, malheureusement peut-être, ou en tout cas de manière qui n'est peut-être pas parfaitement à jour, la manière dont on contacte les usagers, c'est par téléphone. Mais on téléphone beaucoup moins qu'avant. Tout le monde est sur des messageries instantanées. Puis les grandes messageries classiques, paradoxalement, elles ne permettent pas exactement de faire ce dont on a besoin en santé mentale. Je vous donne un exemple. Quand on a une consultation, il y a un début, il y a une fin. On entre dans un bureau, on sort d'un bureau, il y a une salle d'attente. Quand on fait un appel avec un intervenant en santé mentale ou quoi, il y a un début, puis il y a une fin. Mais quand on commence un clavardage sur les grandes applications de messagerie, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. La seule façon de terminer une conversation, c'est de bloquer l'utilisateur. Donc nous, on invente d'autres petites choses qui permettent un début, qui permettent une fin, d'utiliser la messagerie ou le clavardage comme un moyen de communiquer avec des usagers. Et donc, ça, c'est un autre volet. Donc, il y a tout un volet de communication télésuivi. On va pouvoir télésuivre l'usager. Puis le professionnel ou l'équipe de professionnels, eux, ils vont pouvoir suivre l'usager sur la partie web. Eux, ils ont accès à la partie web. Mais les données que l'usager renseigne dans l'appli, il en a le contrôle total. Il est informé en continu sur l'application à quel endroit on collecte quelles données, où est-ce qu'elles sont, etc. Tout est stocké, hébergé sur des serveurs canadiens, au Québec même. Puis l'usager, c'est lui qui décide ce qu'il veut partager comme données avec son intervenant. Est-ce qu'il veut partager les infos relatives à son parcours de soins, des événements qu'il a renseignés selon une flèche du temps, par exemple? Est-ce qu'il veut partager les résultats de ses questionnaires d'évaluation de symptômes? C'est lui qui va décider. Puis s'il décide de les partager, il active un bouton dans l'application. Puis les professionnels peuvent aussi avoir ces infos pour mieux les suivre. Donc il y a un filet de sécurité. Donc c'est cet ensemble-là, Mentalis, cette appli mobile d'un côté, puis le portail web de l'autre, synchronisés ensemble, avec l'idée absolument centrale de rendre ça gratuit pour les usagers.
Et c'est en amélioration continue, j'imagine. Oui. C'est assez récent, comme on le disait. Tu sais, bon, l'application vraiment fonctionnelle, c'est plus 2025, on le voit très récemment. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a des améliorations, puis on veut toujours l'améliorer. On veut que ça soit le plus... j'imagine, vous aussi, de votre côté, c'est la même chose.
Ben oui, par exemple, l'intelligence artificielle, qui est quand même un des grands sujets de l'époque, et qui est en train de changer
qui prend à peu près toute la place depuis un an ou deux
oui,
ans.
Oui, vraiment, c'est fou, central. Puis je pense que vous, comme moi, et tous ceux qui nous écoutent, ils essayent au quotidien toutes sortes d'utilisations de ces outils-là.
Donc, un peu perdu, c'est un peu toutes sortes de choses et rien et tout à la fois.
Ben, il y a quand même un sujet parmi bien d'autres, mais il y en a un qui est quand même très central en ce moment en santé mentale, c'est justement quoi faire de ces chatbots qui sont extrêmement puissants, de plus en plus puissants, qui posent beaucoup de questions... problématiques sur la sécurité, le risque. Il y a régulièrement dans la presse...
Il y a eu des drames
qui sont rapportés.
Quelqu'un qui s'est suicidé.
Exactement.
Parce que, tu sais, c'est ça. C'est
alors,
grave.
Ça reste des cas encore assez rares et heureusement, mais c'est déjà trop.
Ouais.
Parce que imaginons que votre ado se suicide parce qu'il a passé trop de temps sur ChatGPT, c'est insupportable, inacceptable.
Ouais.
Alors, bon, les entreprises technologiques déploient des moyens là, pour essayer de délimiter cela. Mais ça pose quand même des questions parce que, intéressantes aussi parce que c'est quand même des possibilités qui s'ouvrent d'amener du soutien à un premier niveau. Pas pour remplacer des professionnels de santé. Moi, je n'y crois pas du tout de remplacer les humains par ça.
C'est un complément. Là.
Mais en revanche, pendant tous ces temps d'attente, tous ces temps où on est seul avec soi-même, on n'est pas encore prêt à voir un humain, ou tous les moments où on cherche de l'aide, mais le système n'est pas encore prêt à nous fournir de l'aide parce qu'il y a des files d'attente, des choses comme ça. Ben là, on peut recevoir quand même un premier niveau d'aide. Donc, nous, on n'est pas encore prêt à installer quelque chose de ce genre dans Mentalis. On est en mode... Là, c'est plus un volet recherche et développement qu'on mène en ce moment, comme beaucoup de gens. Puis on essaye d'étudier en ce moment qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent, d'intéressant, de pertinent, qui soit éthiquement souhaitable et acceptable. Mais je ne serais pas surpris qu'on arrive à des choses intéressantes.
Est-ce que le feedback, comme on dit en français, le retour des gens, des utilisateurs, est-ce qu'il est bon? Puis qu'est-ce qu'il vous rapporte? Qu'est-ce qu'on rapporte dans l'utilisation?
Pour Mentalis?
Pour l'utilisation de la plateforme.
Ben, on est au début de cela, parce que comme ça nous a pris plusieurs années pour la développer, là, on commence depuis quelques mois à tester. Là, je suis content de pouvoir dire que justement... On est dans une expérimentation pilote avec un SUS et on va pouvoir avoir du feedback un peu plus concret venant du terrain, du côté des professionnels et des usagers dans un service public d'accès aux soins en santé mentale. Ouais. Puis là, on va vraiment mieux mesurer là. Mais disons, les premiers tests préliminaires qu'on l'a fait sont très encourageants. Les gens trouvent que... Ben, c'est intéressant, ça amène le sujet d'une manière moderne, l'application est perçue comme esthétique, agréable.
Ouais. On a parlé beaucoup du design dans la première entrevue qu'on a fait ensemble, puis le design est majeur dans ça, ça donne le goût de l'utiliser.
C'est ça, puis donc les gens manifestent de l'intérêt, puis là, maintenant, on va mener des études un peu plus structurées pour ça. Là, on a fait des premiers tests comme ça, préliminaires, je vous dirais. Mais là, on a plusieurs études en cours en même temps dont on publiera les résultats pour montrer ce qu'on arrive à faire ou pas de bien ou de mieux avec la plateforme. Parce que on est dans une logique d'innovation, mais fondée sur la science. Donc, on va pas seulement faire ce qu'on a déjà fait, de développer la plateforme, mais l'évaluer, la valider scientifiquement. On va faire des publications scientifiques aussi.
Il faut prendre le temps de le faire. C'est mieux de prendre plus de temps, d'avoir quelque chose de plus solide, de plus concluant.
Ouais, c'est ça. Là, je vous dirais qu'on y est là. Donc, c'est une question de moi maintenant pour avoir des premiers résultats plus concluants, plus précis.
Ouais. Vous avez fondé donc Mentalis, on disait tantôt, en 2020. Comment vous voyez l'avenir? Parce que c'est un peu des fois incertain. La technologie, on a l'impression il y a 10 ans. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, dans 10 ans, on va être rendu où? Mais est-ce que vous avez quand même un peu une idée comment vous voulez faire évoluer Mentalis?
En santé, là, je m'appuie sur... les résultats des travaux en santé publique sur l'innovation en santé, c'est que nous, on a adopté dès le début, il y a 5 ans, l'idée que l'innovation en santé, c'est lent. Puis, vous savez, dans les startups numériques, il y a plus d'une dizaine d'années, on disait « move fast and break things », hein, faut aller vite puis tout casser. Ben, nous, on dit le contraire en santé mentale, hein, « move slow and break nothing », là, on va rien casser du tout, on va prendre le temps, parce que si on veut amener des innovations en santé mentale, il faut prendre le temps. ça prend du temps, les systèmes de santé sont complexes. Puis si on veut s'insérer doucement dedans, sans rien casser, ben, il faut le prendre le temps. Puis ça, le fait qu'on fasse ce pari-là fonctionne, parce que je me souviens, au début, en 2020, on observait des startups qui étaient en train d'apparaître dans le domaine en santé mentale numérique, qui sont déjà plus là. Ça n'a pas marché. Parce qu'ils voulaient aller trop vite, parce que la pression financière. Puis l'avantage, c'est que Mentalis est développé à l'université. Ouais. Développé par la recherche universitaire, où on n'a pas la même pression financière. Et ça, je crois que ça permet beaucoup de choses.
Ça a donc, du bon, ça, effectivement.
Donc,
ça,
on va prendre le temps de bien le faire.
On a le luxe de mieux le faire, d'avoir quelque chose qui est plus adapté et tout ça. Là. Voilà. Effectivement. Comment on fait pour... On a encore une couple de minutes. Comment on fait pour trouver toutes les informations, que ce soit pour les travaux de recherche que vous, auxquels vous participez, ou Mentalis comme tel, un peu tout cet univers-là, incluant le design, mais c'est un peu...
L'application mobile, elle est disponible sur les stores, là, les App Store, les Play Store, etc., pour la trouver. À l'heure où je vous parle, elle est disponible que sur le Play Store de Android, mais elle devrait être prochainement dans les prochains mois.
Et on l'écrit M-E-N-T-A-2-L-Y-S.
Ouais, donc c'est comme mental. Mental, puis on ajoute un autre L-Y-S. Ouais. Mentalis avec deux L.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, on la trouve là. Donc déjà, on peut la télécharger. C'est sûr qu'il nous faut le petit code d'accès là pour déverrouiller l'ensemble des fonctionnalités, mais elle est là. Puis pour mieux comprendre ce que c'est, on a un site officiel, news.mentalis.com, qui rassemble l'information essentielle sur notre approche, qui sommes-nous, comment on fait ça, à quoi ça ressemble. Il y a des visuels, il y a des explications, il y a des communiqués récents. On a quand même été, là, dans les tout derniers mois, finaliste de deux prix, un en technologie de l'information, un en innovation sociale. Donc, il y a...
Une belle tape dans le dos, ça, c'est toujours
des bonnes tapes dans le dos auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement, puis qui font du bien, qui nous encouragent, effectivement. Donc, on peut nous trouver là. Puis le meilleur endroit pour nous suivre, c'est notre page LinkedIn, parce que là, on peut avoir un rythme de publication plus rapide et plus flexible. Et donc, là, j'encourage les personnes tout simplement à suivre notre page LinkedIn pour voir un peu comment on avance. Ouais. Mais ce serait les moyens essentiels de nous rejoindre.
C'est fort intéressant. On y reviendra éventuellement un peu plus tard, parce que l'avenir est prometteur. Et puis, merci beaucoup, Stéphane Vial, d'avoir été des nôtres, fondateur de Mentalis. Et à la prochaine.
Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors si tu entends cette chanson, peux-tu suis appelé à la maison, simplement pour me dire mes papas. Les jours de pluie font pousser les fleurs.
Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
C'est maintenant le segment Espresso. Bonjour Pierre.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, la sophrologie, dur à dire.
Oui, pourtant, c'est vrai qu'on s'accroche facilement dans ce mot-là.
Ouais.
Sophrologie, oui, ça s'écrit S-O. P-H-R-O-L-O-G-I-E, sophrologie.
Ouais.
Et je me suis inspiré d'un article que j'ai trouvé, comme à mon habitude, sur l'Internet, sur un article qui s'appelle « 5 techniques pour se reconnecter à soi ». On va voir que la sophrologie, mais ça rappelle un peu, peut-être le yoga, ou d'autres sciences viennent orientales,
avec des certaines... façon de se détendre.
Oui. Alors, j'ai pris mon article sur le site Internet qui s'appelle la clinique E-Santé. Ce n'est pas la première fois que j'ai pigé des articles sur ce site. Et on donne crédit de l'article à l'équipe, la clinique E-Santé. Donc, on nous dit, la sophrologie, c'est quoi? Ben, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle conceptualisée en 1960 par un monsieur du nom de Alfonso Caicedo. Qui était neuropsychiatre né à Bogota, en Colombie, maintenant décédé depuis plusieurs années. Alors, cette pratique thérapeutique doit son terme à l'association des mots grecs anciens SOS, SOS, si on veut, le mot phrène et logos, qui signifie littéralement l'étude de la conscience en équilibre. Elle a été développée dans un premier temps au sein du domaine médical dans l'objectif de soulager les patients dans leur parcours médical. Cette méthode a ensuite été popularisée puisqu'elle s'adresse à chacun et est bénéfique tout au long de la vie, de la préparation à la naissance jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Concrètement, la sophrologie est une discipline qui regroupe un ensemble de pratiques inspirées de plusieurs techniques de respiration et de mouvements doux. Ces pratiques sont inspirées d'exercices occidentaux, notamment avec la pratique de la relaxation, mais aussi orientaux, comme pour les exercices de yoga et de méditation, et sont aujourd'hui préconisées, évidemment, par un sophrologue. Une séance de sophrologie est souvent composée d'un ou de plusieurs exercices simples qui mobilisent le corps et l'esprit. Apprendre à contrôler sa respiration pour mieux la dompter, visualiser un événement important pour mieux l'appréhender, se relaxer et vider son esprit pour clarifier ses pensées, tous ces exercices aspirent au même but, soit avoir une meilleure connaissance de soi pour trouver un équilibre intérieur. Maintenant, quelles sont les techniques utilisées en sophrologie? Il y en a 5. Premièrement, il y a la technique numéro 1, c'est la reconnexion au corps. La reconnexion à son corps est le point de départ de tout travail sophrologique. Cette technique vise à s'ancrer dans le moment présent et à visualiser son corps dans son environnement extérieur et intérieur. Appelée sophronisation, cette méthode apprend à se détendre réellement en relaxant totalement le corps. Souvent, la sophronisation est effectuée tout au long de la séance thérapeutique qui comporte plusieurs exercices pour se plonger et rester dans un état complètement détendu et idéal pour la pratique de ceux-ci et d'en sortir tout en douceur. Cependant, il est tout à fait possible et commun d'effectuer uniquement cet exercice de reconnexion au corps pour atteindre un degré de relaxation.
Ça revient souvent, Pierre. T'sais, on parle souvent de se reconnecter, de prendre le temps, de ressentir nos émotions. Fait que c'est la base de beaucoup du bien-être. En fait, il faut commencer par se connecter.
Technique numéro 2, les exercices de respiration. La respiration est l'élément central de notre physiologie et a une influence capitale sur notre état mental et notre système nerveux. Heureusement, il nous est possible de contrôler volontairement notre respiration respiration pour régénérer le corps et l'esprit. En effet, il est prouvé scientifiquement que respirer consciemment nous aide véritablement en agissant sur notre état mental, en améliorant notre système cardiovasculaire, en stimulant notre système digestif et en apaisant notre système nerveux. C'est pourquoi les exercices de respiration sont souvent utilisés dans de nombreuses psychothérapies, notamment dans ce qu'on appelle la gestalt, qui favorise la conscience du corps et de l'esprit dans l'instant présent. En sophrologie, la respiration consciente vous invite à vous ancrer dans le moment présent afin de filtrer nos pensées, prendre du recul et donc mieux gérer vos émotions. Maîtriser sa respiration peut être extrêmement utile pour les personnes stressées, pour aider à l'endormissement. Si vous éprouvez des difficultés à vous endormir ou que vous êtes sujet aux troubles insomniaques, ou même pour aider à surmonter les souvenirs d'un événement traumatique. Technique numéro 3 que l'on trouve d'après l'équipe de Clinique E-Santé, c'est la visualisation. La visualisation est un processus de formation d'image mentale. En sophrologie, elle fait partie des exercices statiques qui ne demandent aucun mouvement. Étudiée dans de nombreux domaines tels que les troubles addictifs, les échanges relationnels et le sport, la visualisation permet de renforcer la pensée positive pour mieux appréhender certains événements. C'est vrai que dans le monde du sport, on entend souvent parler des athlètes qui nous disent ben, la première chose qu'ils font avant une grande compétition, ben, c'est de se voir.
De se voir réussir ou d'effectuer ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire.
Exactement, ça doit aider.
Oh, oui, ça va sûrement.
En ce sens, la visualisation est une technique soutenant les personnes atteintes d'une forme sévère d'anxiété. Pratiquée en sophrologie, la visualisation est une technique utile pour renforcer son état mental, notamment pour appréhender un événement lorsque l'on visualise une action ou un événement à venir ou se représenter mentalement tout le déroulé de cette action. Mais je m'arrête ici.
Oui, on pourra poursuivre dans ton espresso allongé sur le même sujet, Pierre. Merci.
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Bienvenue encore une fois au studio, qui est dorénavant le tien aussi, puisque tu y es souvent. Et c'est pour notre bonheur, nos oreilles. Oui. Aujourd'hui, un titre particulier, l'homme est-il un mammifère ruminant? C'est ça le titre de ta chronique.
Oui, là, je dis tout de suite l'homme avec un grand H.
Oui, oui.
Donc, l'homme et la femme,
là, c'est ça,
sont-ils des mammifères ruminants?
Ruminants. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Tu nous piques la curiosité, ça, c'est sûr.
Bon, c'est ça. On n'a pas X estomac, hein, comme les vaches, etc. Mais en fait, on rumine mentalement, on va dire.
Oui,
donc,
okay.
C'est ce sujet de digestion mentale, je dirais, plutôt qu'une digestion intestinale.
Bien, ruminer, des fois, c'est soit des sentiments, des trucs comme ça.
Des pensées, il y a encore des pensées. Et le hamster, hein, comme on dit ici au Québec, qui tourne.
Oui.
Et... le cerveau qui est perpétuellement actif, alors qu'on voudrait juste s'arrêter. Mais pas chez tout le monde, hein, heureusement. Mais je veux dire, quand c'est parti et qu'on n'arrive pas à s'arrêter, ne rien faire et pas avoir de pensée, on est dans du répétitif. Et ça peut être, c'est pas que du négatif, hein, ça peut être du positif. L'idée qu'on va se poser aujourd'hui aussi, c'est, dans le fond, est-ce qu'il y a moyen de s'en libérer? Est-ce que c'est intéressant de s'en libérer ou... Qu'est-ce qu'on en fait, de ces pensées? Parce que des fois, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et donc, c'est cette bulle dans laquelle on est plongé, on ne sait pas vraiment sortir. Et ça a même des conséquences au niveau physiologique. Hein. Y a une médecin ici qui dit qu'elle affecte les pensées, cette rumination, mais aussi les émotions, elle active notre amygdale. Donc, il peut y avoir des réactions à ce niveau-là. elle active notre amygdale et réactive des anciens schémas cognitifs, donc des schémas cognitifs du passé. Donc, il faut faire attention avec ça aussi, parce que ce n'est pas juste l'esprit, c'est aussi le corps. Et puis, l'esprit, c'est important. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a moyen, tout d'abord, on se pose la question, est-ce qu'on peut s'en détacher? Ça, c'est très personnel. Ça va vraiment dépendre de la capacité de chacun à pouvoir se détacher et être dans l'instant présent. Parce que les ruminations, elles touchent le passé beaucoup, et elles touchent aussi beaucoup le futur, si on est anxieux. Donc, on peut aussi bien se dire « Oh, qu'est-ce que j'ai dit à cette réunion ? J'aurais pas dû le dire. C'est passé, on ne peut plus rien y faire. »
On peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Hein? C'est déjà sorti.
C'est bien dit. C'est très difficile de mettre la pâte à dents dans le tube.
Bonne chance.
Voilà, c'est ça. Et puis, on peut aussi, dans le genre anxiété du futur, on peut se dire « Oh, mais à la prochaine réunion, qu'est-ce que je fais ? Alors, est-ce que je redis ça ?» etc. Donc, on est pris dans cette bulle et il faut savoir s'en détacher. Pour s'en détacher, on doit uniquement être dans l'instant présent. On est d'accord que nos sociétés, ça ne nous pousse pas à être dans l'instant présent.
Ouais.
On nous pousse à bien réfléchir à l'avenir, que le passé nous serve, etc. On est fort dans la performance. Mais on va voir que si on arrive à être dans le présent, on peut utiliser ce présent pour en fait se calmer et en faire un allié pour faire quelque chose de cette rumination. On va voir qu'il y a quatre gros avantages en fait à la rumination qui est un petit peu inévitable, hein, qui peut devenir évidemment maladive. On parle ici d'une rumination, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ben, on peut se dire, si on rumine par rapport à un événement, souvent qu'on a vécu quelque chose de difficile, et je ne parle pas tout de suite du gros accident de voiture ou quoi, ça peut être un incident avec un collègue ou quelque chose d'intrafamilial. On a alors, à ce moment-là, on peut parler de croissance post-traumatique. Qu'est-ce qu'on va faire de cet événement ? Alors là, on peut essayer de se critiquer l'événement, pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'on peut construire quelque chose par rapport à notre comportement ? Est-ce qu'on peut être meilleur par rapport à ça, etc. Donc oui, un peu de performance ici, mais je veux dire vraiment dans la positivité, il faut se dire, est-ce que je peux tirer des leçons, sans dire que c'était des erreurs spécialement, mais est-ce que je peux en tirer des leçons ? Donc ça, c'est une croissance post-traumatique, numéro un. Numéro deux, c'est la compréhension de soi, d'accord ? La compréhension de soi... C'est, j'ai un petit problème de papier, voilà. Elle permet donc d'aller comprendre nos besoins, nos comportements, peu importe qu'il y ait eu trauma ou pas. Ça peut être un simple incident, il n'y a pas trauma. On peut toujours analyser, d'accord ? On ne doit pas faire ça spécialement dans le moment où on veut être dans l'instant présent. On peut faire ça après et travailler là-dessus comme un devoir qu'on ferait. Parce qu'il faut aussi un moment être dans l'instant présent pour... ne pas être dans ce post-trauma trop difficile, d'accord ? Donc, un, croissance post-traumatique, deux, compréhension de soi, et puis trois, résolution de problème. Oh ben, si c'est un problème, on va essayer de trouver une stratégie avec des solutions pour répondre. Si c'est un problème, si c'est pas un problème, une situation où on peut améliorer les choses, c'est la même chose, d'accord ? Et en quatre, la prise de conscience. Bon. Prise de conscience, évidemment, ça peut être fait au tout début. Et on peut se dire à ce moment-là, ben tiens, s'il y a un incident avec un collègue, je ne suis pas bien parce que quoi ? Parce qu'en effet, il s'est passé quelque chose. Donc, je prends conscience que dans le fond, ou lui m'a mal répondu, ou moi, j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas, si j'ai lâché quelque chose de vilain. Mais donc, il y a une prise de conscience qui se fait de l'événement, l'incident, ou ça peut être d'un accident. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire après, ça c'est connu de beaucoup de monde, c'est, pour être dans l'instant présent, c'est la pleine conscience. Je ne dis pas que c'est un synonyme, mais la pleine conscience, c'est vraiment une pratique mentale qui existe pour arriver à ce qu'on soit dans la pensée du moment.
Et aussi, je pense que les gens vont trop vite. En général, la vie va trop vite. Puis on a l'impression qu'on fait plus de choses en allant vite, mais c'est pas vrai. Parce que si on prend le temps, on va gagner sur ne pas refaire les choses, mieux se comprendre,
oui,
mieux évoluer.
Oui, on va avoir de l'introspection, une distance, éventuellement une stratégie.
Il ne s'agit pas d'être lent, mais il s'agit de faire les choses comme ça doit être fait. Puis à long terme, ça va être plus gagnant pour tout le monde.
Oui, et puis on se respectera plus, je pense, dans un cas comme ça, parce que dans le fond, on va mieux conscient des situations et on va réussir peut-être à les gérer à notre manière et être bien avec la manière dont on agit avec les situations.
Et le temps qu'on prend pour se comprendre et comprendre les situations, c'est pas du temps perdu, tu sais.
Oh non, je pense que c'est un enrichissement personnel, ouais. Vraiment. Et c'est fait en dehors de la pleine conscience, mais si les gens veulent aller dans les centres pour cette pratique mentale, il faut aller dans les bons centres, évidemment, où ils font de la pleine conscience de manière... Il y a des hôpitaux qui offrent ça, donc il ne faut pas le faire n'importe où, avec n'importe qui. Ouais. Faites attention aux charlatans, quand même, d'accord? Et donc, à ce moment-là, on peut le faire aussi, pas spécialement en groupe, si on n'aime pas ça, mais le fait d'aller marcher, hein, sous la pluie, sous la neige, ou de faire le ménage ou le repas, ça peut être aussi de l'instant présent. On veut vraiment essayer si ces activités nous permettent d'être dans l'instant présent, c'est bon pour nous aussi, c'est bon pour notre cerveau, d'accord? Alors, en fait, comment savoir un petit peu, comment arriver à passer ces étapes donc, de construction, de positivité? Ben, comme j'ai dit, on doit vraiment identifier le moment où c'est arrivé, avec collègue ou pas collègue, trouver notre problème en numéro 2, pratiquer la pleine conscience pour un petit peu faire sortir la vapeur, et puis avoir un développement personnel qui suit, peu importe, ça peut être tout de suite après l'événement. Donc vraiment, on peut respecter ces étapes si vous ne vous sentez pas de faire l'étape 3, ou de, comme notifié dans les notes que les gens pourront les consulter, vous le faites dans le sens que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vraiment vous considériez ce qui vous est arrivé. Pourquoi je réagis? Comment j'ai réagi? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je rumine une journée ou ça fait une semaine que je pense à cette situation? Il y a des situations qui nous attrapent et qui ne nous lâchent pas. Hein.
Qui nous collent à la peau. Là,
voilà, c'est ça. Il y a vraiment des choses, des fois des incidents, alors que bon, des fois on rumine pendant peut-être une heure ou deux si on a pris un ticket, par exemple, et que ce n'était pas tout à fait justifié. Bon, ça peut durer une heure ou deux ou une journée.
surtout un billet de... Ouais,
voilà, c'est ça. Mais on peut un petit peu, en analysant, dire ben, « je vais prendre une action par rapport à ça et je peux contester si on n'est pas d'accord ». Donc, il y a vraiment moyen d'aller travailler là-dessus.
Et des fois, il faut relativiser les choses dans la vie. Oui. Là, des fois, on se dit ben, « c'est plate, mais c'est ça, ça arrive ».
C'est ça. Pour les petites choses où on sent qu'il y a une légèreté dans la rumination, c'est-à-dire que... c'est difficile de savoir à l'avance combien de temps on va garder ça en tête. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de le prendre au fur et à mesure. Mais quand on sent que ça devient lourd, okay, si ça dure et que ça nous mine et qu'on sent que c'est très négatif, là, il faut prendre des mesures et aller voir notre petite feuille. Tiens, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cet événement? Donc, quand elle devient problématique, la rumination, ça veut dire que Elle est centrée vraiment sur le négatif, qu'elle n'arrête pas de revenir. C'est comme un cercle vicieux. Et ça devient très nuisible pour notre bien-être. Et puis le bien-être autour de nous, notre fonctionnement. Donc,
dans le fond, de prendre conscience. Faut réagir. Ouais, de prendre conscience de tout ça et de faire ces. Il faut vraiment s'entraîner. Il faut devenir un nouveau soi, là, d'une certaine façon.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on est tellement. On est tellement, si on veut, formé, entre guillemets, à agir d'une façon que c'est difficile de changer ça. Faut presque donner un... Faut se donner un coup de barre là, dans nos façons de
tout
penser.
Tout à fait.
Là.
Et il faut se donner du temps, parce que du ça temps. N'arrive pas du jour au lendemain d'avoir plus d'introspection, d'être dans la construction de soi. Ça prend du temps. Peut-être, c'est pas quelque chose qui nous arrive du jour au lendemain comme ça.
Il y a des lectures à faire là-dessus. Souvent, tu donnes des références dans plusieurs domaines.
Oui, je donne des références,
mais
il y a des bonnes choses dans les bibliothèques publiques. Si les gens veulent se référer à leur bibliothécaire municipal, ils peuvent très bien parler de développement personnel ou de rumination. Aller choisir, évidemment, des livres écrits par des médecins, des psychologues.
Ouais,
ne prenez pas n'importe quoi non plus. Ça, il faut quand même faire attention à ça.
Mais des fois, il faut se fier aussi à soi. Écoute, si on prend 5 minutes, comme beaucoup disent, beaucoup d'invités, incluant toi, incluant les chroniqueurs, peu importe, de prendre des fois 5 minutes par jour, juste 5 minutes, mais les gens ne prennent même pas ça. Des fois, ils ne voient pas leur journée passer, puis ils sont dans le stress total. Mais en prenant 5 minutes pour faire le point sur... ça va nous aider à voir plus clair. Là.
5 minutes pour ressortir de chez soi et aller marcher, tout simplement. Ouais, ça, c'est, je trouve que c'est une recette qui marche beaucoup. Moi, c'est pas la cuisine, ou faire le repas ou faire le ménage qui me font cet effet du tout. Mais aller prendre une marche, moi, je trouve ça assez magique pour moi. Donc ça, c'est, chacun fait comme il veut. Ou pratiquer un sport.
Mais prendre une marche tellement accessible à tout le monde en autant
qu'on... C'est ça. Et puis, on n'a pas besoin d'un rendez-vous dans un club de sport. Ni rien, on ouvre la porte et on sort.
On y va quand on veut. Et puis, au moment où ça nous fait plus de bien. Là.
Voilà. Donc, voilà un petit peu les étapes dont j'ai parlé pour passer de ce qu'on appelle une rumination dysfonctionnelle à une réflexion et une proactive et orientée vers le développement personnel et la résolution de problèmes. Donc, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'ai donné les références. Et si ça devient trop sévère, allez consulter quelqu'un.
Oui, on va intégrer les références, comme d'habitude, sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Et puis, ta chronique, c'est « L'homme est-il un mammifère ruminant ou l'humain, en fait?
Oui,
l'homme
l'être
au
humain.
Sens large. Oui. » Merci beaucoup, Catherine, pour ce sujet. Puis, à la prochaine.
Merci, Yvan. Au revoir.
Au revoir.
Retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
Nous poursuivons avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, dans l'émission, la sophrologie.
La sophrologie, oui. Donc, c'est un mot qui est composé, comme je disais tantôt, des mots grecs anciens, les mots sos, S-O-S, phrène et logos, qui signifie littéralement l'étude de la conscience en équilibre. Et j'ai pris cet article sur Internet, comme d'habitude, un article qui s'appelle « Sophrologie, 5 techniques pour se reconnecter à soi » sur le site de la Clinique Santé. Alors, je vous parlais de 5 techniques qui sont proposées en sophrologie. Et j'avais commencé à vous parler tantôt de la visualisation beaucoup pratiquée, entre autres, par les athlètes avant des grandes compétitions. Mais en fait, en visualisant, on maîtrise la situation de tout événement et on évite d'être envahi par les angoisses.
Même dans notre vie de tous les jours, là, pas des athlètes de haut niveau, on peut visualiser des choses. Là.
Comme il y a des gens, par exemple, qui peuvent être paralysés d'angoisse à l'idée de parler devant un groupe de personnes, par exemple.
S'ils se préparent mentalement, ils se visualisent comme quoi ça va aller bien, puis ils voient un peu la scène positivement, ça peut sûrement les aider.
Exactement, Un autre exemple pour appréhender un événement, prenons l'exemple de l'examen scolaire. À l'approche des examens, vous commencez à angoisser et à avoir peur de ne pas être à la hauteur. Essayez de visualiser votre réussite. Votre préparation mentale va être primordiale pour appréhender au mieux cette épreuve. Quatrième technique maintenant, la relaxation dynamique. Une séance de relaxation anti-stress regroupe des techniques de mouvement spécifiques inspirées de techniques orientales comme les mouvements de yoga. C'est une relaxation effectuée en pleine conscience et de façon active, contrairement aux exercices de respiration et à la visualisation. Pour dynamiser la conscience, on effectue des mouvements et des étirements lents et doux selon les instructions du sophrologue. Les mouvements sont effectués de façon consciente pour être pleinement présent physiquement et mentalement. Les séances de relaxation dynamique sont souvent utilisées pour se libérer des blocages physiques et émotionnels. Cette méthode sophrologique est encore plus adaptée aux personnes qui sont peu réceptives aux techniques statiques comme la visualisation ou la méditation, puisqu'elle mobilise le corps en plus de mobiliser l'esprit. Effectuée en position assise ou debout, la relaxation dynamique invite à faire des mouvements lents et stimulants pour le corps, rythmés par la respiration. Lors de ces exercices, le cerveau est concentré sur le moment présent et les perceptions que l'on peut avoir au fil des mouvements. L'objectif est de relâcher complètement les tensions inutiles. La mâchoire serrée, les muscles crispés, les sourcils froncés, etc. Pour évacuer les tensions, essayez cet exercice dynamique qui allie mouvement et respiration. Prenez une profonde inspiration par le nez, puis bloquez l'air en serrant les poings. Effectuez ensuite des mouvements de moulinet avec le bras droit en avant puis en arrière avant de relâcher le poing en expirant. Mais là, il ne faut pas qu'il y ait personne alentour. Ce n'est pas marqué sur la feuille, mais c'est moi qui dis ça.
Parce que le poing peut accrocher quelqu'un.
Exactement. Au moment de l'expiration, faites ressortir toutes vos tensions. Faites de même pour le bras gauche en expirant les ondes négatives. L'exercice est à répéter 3 fois de chaque bras. Si vous avez besoin d'un regain d'énergie, vous pouvez effectuer la figure qu'on appelle Nauli, N-A-U-L-I, aussi présente en yoga. Soufflez par la bouche tout en vous penchant en avant. Après avoir fini de souffler, bloquez votre respiration en posant vos deux mains sur vos genoux. Dans cette position, sortez et rentrez le ventre plusieurs fois, puis redressez-vous en expirant doucement. Cet exercice est également à réaliser 3 fois pour retrouver un gain d'énergie instantané.
On remarque dans la plupart des approches, que ce soit la sophrologie maintenant ou d'autres approches, les gens prennent souvent, ils courent tellement, ils n'ont pas le temps de s'arrêter, d'être connectés avec soi-même. La respiration, la simple respiration, des fois, on respire sans même s'en rendre compte. C'est tellement rapide qu'on a besoin des fois d'arrêter un peu. Oui.
Mais tu vois, je pense que c'est pas tout le monde. Puis moi, le premier qui serait capable d'être bon en yoga ou en sophrologie dès le début.
Oui, il faut le mettre en pratique pour devenir bon. Là,
Alors, dernière technique, technique numéro 5. La cohérence cardiaque. Ralentir son rythme cardiaque est bon pour la santé et la longévité. Il est donc important de porter attention au battement de son cœur, surtout d'un point de vue sophrologique. Il existe différentes manières d'atteindre la cohérence cardiaque, en faisant du yoga, de la méditation, en chantant ou en priant. Lors de ces activités douces, comme lorsque l'on ressent des émotions agréables, le rythme des battements du cœur est ralenti et propice à la détente. Au contraire, lorsque l'on vit une émotion forte et parfois négative, le cœur se met à battre rapidement. C'est le cerveau qui est à l'origine de tout ça. Les réactions physiologiques face aux différentes émotions ressenties font travailler le système nerveux. À l'annonce d'une mauvaise nouvelle, il vous est peut-être déjà arrivé de ressentir votre cœur battre plus fort qu'à l'accoutumée, comme s'il allait sortir de votre corps. Avec la sophrologie, il est possible de réguler son rythme cardiaque pour parvenir à un équilibre de rythme cardiaque. Je vais vous donner tout de suite, en terminant, le répertoire des membres de sophrologie, si vous êtes intéressé. Alors, pour trouver un sophrologue certifié par l'ACS, soit l'Association canadienne de sophrologie, ou une école de formation au Québec ou au Canada, allez simplement sur l'Internet, sur le site sophrologie.québec.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet.
J'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé. L'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé. Vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir. Je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir. Je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir. J'ai rêvé. C'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé. Vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. Radio ça kickait, vos rappeurs du moment. Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement. Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves? Si on voulait, si on voulait. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. C'était l'hiver tôt le matin, juste avant que le jour se lève. J'ai regardé. Vos yeux endormis sereins autour de la table du petit-déj. J'ai aimé. Il y avait l'odeur du grille-pain et vous me racontiez vos rêves. De drôles d'histoires de requins et de marins qu'on enlève. C'était un matin commun, mais comme un privilège. J'ai rêvé. C'était l'été à la campagne, il y avait de belles éclaircies. J'ai regardé. C'était peut-être à la montagne, les rêves c'est pas très précis. J'ai aimé. Vous me disiez que c'était relou, cette crème solaire à s'enduire. Il y avait du bonheur partout et vous vouliez vous resservir. Je restais tout le temps avec vous pour pas vous sentir grandir. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Retiens les rêves, si on voulait, si on voulait. Quand ils apprennent à lire, nous on vieillit sans défense. Je crois qu'on était des enfants tant qu'on n'en avait pas. Et si les aider à grandir nous fait perdre un peu d'innocence, je veux bien devenir adulte, si c'est pour être papa. J'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait. Thank you.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Avant de terminer cette émission de Folie douce, Pierre, on va nommer les chansons entendues cette semaine.
Oui.
Donc, la première, Je suis ton animal.
Oui, de Roy Davis.
On a entendu Les jours de pluie.
De Léo Pichet.
Dans la deuxième partie de l'émission, Alco.
De Half Moon Run.
Et à l'instant, Retiens les rêves.
Oui, de Grand corps malade.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour ton sujet, pas facile à prononcer, la sophrologie à l'espresso.
Je commence à l'avoir.
Oui, je commence à l'avoir, là, maintenant qu'on l'a, on l'a dit plusieurs fois. Merci pour ce sujet. Notre invité en début d'émission, Stéphane Vial, est venu nous rencontrer pour une deuxième fois pour nous parler de Mentalis, un projet plein d'espoir. C'est à suivre définitivement. On va sûrement y revenir éventuellement. Ça évolue toujours. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a proposé sa chronique « L'homme est-il un mammifère ruminant? » C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.